Immersion.
Un reportage de Radio Présence.
Mais comment faire pour être heureux ?
Lumière au plus près des petits, des pauvres et des malades, elle porte le beau nom de sœur de l'ange gardien. Le 22 avril dernier, leur fondateur, le père Louis Ormière, était béatifié à Oviedo, en Espagne. Mais c'est en 1839 à Quillan, dans l'Aude, que tout avait commencé. Le 3 décembre de cette année-là, mère Saint-Pascal de la communauté des sœurs de l'instruction chrétienne de Saint-Gildas-des-Bois arrivait à Quillan et, avec le père Ormière, fondait alors une nouvelle congrégation. Reconnue autonome en 1852 par Napoléon III, la maison mère serait transférée quelques années plus tard, en 1859, à Montauban. Pour répondre à un besoin du moment, enseigner, éduquer, assister les malades, les sœurs ouvrent alors des écoles et des jardins d'enfants, dans le sud de la France, puis dans un élan missionnaire en Afrique, en Amérique du Sud, en Italie, en Espagne. Parce que la mission de l'ange n'a pas de frontières, elles prennent soin en tout lieu des plus petits et des plus pauvres. Un siècle et demi après, comment faire vivre, comment rester fidèle à cette spiritualité de l'ange gardien ? À Montauban, à la maison mère, nous retrouvons quelques jours après la cérémonie de béatification, sœur Marie du Carmel et sœur Jacqueline de la congrégation de l'ange gardien, mémoire d'hier et d'aujourd'hui.
Bonjour. Bienvenue chez nous.
Merci à vous.
C'est magnifique ici.
Qu'est-ce que c'est beau,
n'est-ce pas?
Alors, voyez, nous avons un centre d'accueil pour des groupes en formation, de week-end. Voilà, sœur Jacqueline aussi.
Bonjour.
Et vous êtes combien ici? Oh, petite, 7. D'une cinquantaine, nous ne sommes que 7 maintenant.
Pour tous ces grands bâtiments, comment vous faites pour entretenir tout ça?
On envahit la communauté, et là, c'est des groupes.
Centre spirituel, centre d'accueil.
Oui, ça pour les formations.
Voilà. Et oui, même là-bas. Vous n'avez pas vu ça, vous le verrez en Partaya.
Une grande salle à main. Visiter après.
Ah, ben voilà, tout à fait. Oh, il y a des choses jolies à visiter.
Ah, oui.
Mais là-bas, il y avait les écuries, un poulailler, tout a été transformé pour le centre d'accueil.
On avait des caves où on a réfugié des familles juives pendant la guerre de 40-41.
On a une plaque d'ailleurs.
Ah, ben on ira là-bas. Si
voilà, on verra tout ça. Ça date, nous l'avons acheté en 1858.
Cette maison, là, oui.
Voilà, mais c'est très différent
mais
de ce qui est
certain. Elle date de 1700.
Oui. Cet escalier, qu'est-ce qu'il est beau, tout en bois.
Vous allez. C'est la plus belle, venez la voir.
Moi, c'est la pièce la plus belle.
La cuisine.
Les anges gardiens, un beau nom qui aujourd'hui néanmoins interpelle et interroge.
Dans les années 90, oui, il y a eu comme une vague d'une mise en doute de l'existence des anges, il y avait comme une critique. Et moi, je faisais une formation chez Villarue, il y a une religieuse qui me dit: vous n'avez pas honte de porter le nom de l'ange gardien, des sœurs de l'ange gardien? J'étais tellement surprise, je dis: pourquoi j'aurais plus honte de porter le nom des sœurs de l'ange gardien que celles qui sont filles de Jésus ou filles de Marie? Pour moi, c'était...
Dévoué.
J'étais tellement surprise. Je dis, bon, c'est vrai que nous, on est nés dans la vie religieuse avec cette spiritualité de l'ange, ce charisme de l'ange. Et c'est vrai qu'on le porte tellement... Donc, on en est fiers. Mais on est sœurs de l'ange gardien.
Quand ils ont annoncé, on dira un peu l'histoire, quand ils ont annoncé à la congrégation que... qu'on était congrégation indépendante, parce que d'abord on dépendait d'une congrégation de Bretagne, mais on est devenu, en 1852, ça a été reconnu le 11 décembre 1852, et ils ont annoncé à la congrégation, bon, l'approbation, et puis le nom, d'être fier du nom que nous portons, mais de ne pas l'être de fait uniquement, il faut que nous soyons vraiment des anges pour les enfants qui nous sont confiés. Donc, et nous avons eu, là, au mois de juillet, août 2016, le chapitre général de la congrégation ici, et on a insisté plus que jamais sur l'ange visible que nous sommes. L'ange visible qui manifeste son identité. L'ange visible au niveau de la formation à recevoir, de la fraternité en communauté. L'ange visible dans les champs de la mission. Et quelle qu'elle soit pour les jeunes, pour dans les cas, de, je dirais, à partir au niveau social, les œuvres des niveaux sociaux, en paroisse, donc partout, et avec même, et même
les aussi,
pour les missions, pour les malades, bon, tout ça, et oui, tout ce qui est de caractère social, et même au niveau du gouvernement, de la coordination, par exemple, notre équipe générale, comme la supérieure de la communauté, elle se doit aussi d'être ange visible pour ses sœurs dans la communauté ou dans la congrégation. On a tout le long des conclusions de ce chapitre, ça parle de l'ange visible que nous avons à être par ce que nous avons à faire. À dire, je dirais que c'est notre teinte particulière. Parce qu'il y a les sœurs du Sacré-Cœur, c'est la dévotion au Sacré-Cœur. Les sœurs de Saint-Joseph, c'est Saint-Joseph, le protecteur, tout ce que vous voulez. Les sœurs de la charité, c'est la charité auprès bon, des enfants. C'est notre teinte particulière.
Chacune votre charisme et votre vocation.
Voilà. Tout à fait.
Tout à fait. Et chacune ayant sa place.
Tout à fait.
Moi, j'aime beaucoup ce nom. En plus, nos fondateurs, ils étaient heureux, ils nous l'ont transmis. Alors, ce que nous n'avons jamais trouvé exactement, pourquoi ils nous ont donné ce nom. Alors, il y a deux faits qui peuvent le justifier. C'est à leur époque, il y avait déjà une manifestation de la dévotion aux anges gardiens. Mais notre mère fondatrice, Mère Saint-Pascal, qui venait d'une autre congrégation de Bretagne, les sœurs de l'instruction chrétienne de Saint-Gilles-de-Bois, et il paraît que dans leur constitution figurait déjà un article qui portait sur les anges, invitant chacune à être un ange gardien pour les autres. Donc je pense que tout ça, ça jouait pour le nom. Et nous en sommes fiers. Parce que c'est presque unique. Il y a les sœurs de Saint-Ange gardien, une ou deux congrégations comme ça, mais un autre.
Mais c'est beau d'être des anges gardiens.
Ça se justifie parce que
c'est une responsabilité, une sacrée responsabilité
tout
aussi.
Tout à fait.
Parce que ça engage, ça vous engage.
Ah, tout à fait. Ça nous aide à nous déplumer pour dire voilà où est la réalité de ce que nous devons donner aux autres, de notre mission, quoi. Ouais. C'est notre mission, notre charisme, pour ainsi dire.
Aujourd'hui, de longtemps, on dit facilement, quand quelqu'un m'a rendu service, je vais lui dire, merci, tu as été un ange pour moi. Mais il n'y a pas que nous qui le disons, ça. Il n'y a pas que nous. Il faut être des anges sur la route des hommes, et quel qu'il soit, pour le besoin. Et ça date, tout au long de la Bible. Tout au long de la Bible, l'Ancien Testament...
Elles ne sont plus que sept aujourd'hui à vivre sur le site de la Molle, à la Maison Mère. Si l'esprit de la mission demeure, la manière de la vivre s'est adaptée aux exigences d'aujourd'hui. Ces grands bâtiments qui accueillaient autrefois une importante communauté et une école ont été transformés au cours des décennies. Le centre de la Molle est aujourd'hui un centre spirituel et un centre d'accueil pour des groupes ou des personnes individuelles, enfants, jeunes ou adultes, constitués en association, loi 1901.
Voilà, et quand il y a des groupes qui viennent, c'est l'entrée ici, vous voyez, c'est l'entrée parallèle.
Là, c'est la communauté là-bas. Et
nous, on va voir notre directeur par la fenêtre.
Bonjour.
Nous avons une journaliste,
De Radio Présence.
Alors, on est bavarde. Hein?
Ah oui, mais vous entendez parler.
Venez par ici, vous allez voir la salle là aussi, qui est très belle.
Bonjour madame.
Et toujours ces anges.
Bonjour, enchanté. Gérard Blondet.
Il y a toujours des anges.
Et monsieur Blondet fait partie de la famille des anges aussi. Oui. Ça se manifeste.
Il
ça
a
se
encore
manifeste.
Les ailes un petit peu sales.
Ouais. Non, courtes.
Je dirais encore pas un sales, peu courtes. Dessus.
Non, courtes, des ailes courtes. Des ailes courtes, c'est ça.
Mais j'étais inquiet là, je croyais que c'était un hamster qu'elle tenait dans la main. Voilà. Donc, petit lapin.
Donc vous êtes le directeur du centre.
Oui, tout à fait.
Donc c'est vous qui vous occupez de tout ce qui est administratif, logistique,
la gestion du personnel, l'administration, ouais. La commercialisation du centre et tout, aller chercher
la valorisation. Après
voilà,
c'est ça, oui.
Voilà, tout à fait.
Puis après, il découvre la vie religieuse.
Parce que c'est un militaire, c'est un colonel.
Un ancien.
Alors,
Il ne faut pas tout dire.
Il fait des rapprochements entre la vie militaire et la vie religieuse. Il y a des règles.
Non. Il y a beaucoup de similitudes. Voilà.
Alors ici, vous voyez, c'est une salle où, quand le groupe arrive, ils aiment bien prendre un café. Et quand il y a des personnes qui dorment, ils aiment bien venir ici, dans des petits coins, puis regarder la télé, ou ils jouent, comme
voilà,
ça.
C'est accueillant. C'est un espace accueillant.
C'est agréable. Avant, il y avait les communications avec la chapelle, là. D'ailleurs, il y a les portes qui sont restées de l'autre côté.
C'est-à-dire, il y avait une ouverture, là ?
Oui. Il y avait une ouverture, parce que là, c'était les classes. Et il y avait une ouverture aussi qui donnait à la chapelle.
C'était
là,
pour entendre la messe, pour ceux qui ne pouvaient pas...
Parce que moi, j'ai eu beaucoup à le faire pendant longtemps. Je devais assister à la messe, mais en même temps, j'avais une oreille pour la messe et l'autre
pour les élèves
qui faisaient l'étude. Parce qu'on n'oblige pas à aller à la messe, non. Et là, c'est la salle...
Salle Louis Ormière, voilà.
Merci Pascal et Louis Ormière.
Je vais prendre les clés.
Et là, vous avez eu des classes jusqu'à quelle période, jusqu'à quand ?
L'école s'est fermée en 1990. Les sœurs ont laissé la direction. Elle a été directrice du primaire.
79. En 1870, j'ai laissé le primaire et après le centre quelques années après.
84, mm-hmm. Voilà. Mm-hmm. Et tant que les sœurs étaient à la tête, bon, ben...
Après, on a eu des magouilles.
Les finances sont parties comme ça. La première année, bon, on rend flou, mais on ne pouvait pas faire ça, parce que nous, on n'est pas quand même une congrégation riche. C'est pas parce qu'on a des grandes bâtisses, mais ça, c'est souvent un coup, et c'est pas, ça ne nous donne pas toujours...
Alors voilà, ici, la salle du Père Ormière.
Et là, bon, on peut accueillir jusqu'à 150 et 180 personnes à l'aise, mais avant, c'était 4 classes. Et à présent, voilà, c'est une salle de conférence.
C'est la suite de votre mission aussi.
Tout à fait.
Vous êtes dans le prolongement. La mission, le fondement, c'est la même chose, mais qui
Tout
prend des formes différentes avec le changement d'époque, le changement de temps.
Tout à fait, puisqu'à l'époque, la fondation, si c'était pour l'enseignement et les soins des malades, c'est parce que les malades n'étaient pas pris en charge partout, surtout dans les campagnes. Les écoles non plus. Après, tous les États, tous les gouvernements ont pris l'enseignement et les malades en main, ce qui est très bien. Donc nous, notre charisme, c'était pas tellement l'éducation, c'était pas tellement l'enseignement, c'était l'éducation. Et l'éducation à travers l'enseignement. Et donc finalement, le mot éducation, c'est beaucoup plus ample, ça nous donne une amplitude beaucoup plus importante, comme en Amérique. En Amérique, ils s'occupent beaucoup de paysans qui sont exploités et tout pour les œuvres sociales aussi. En Afrique, l'alphabétisation, les centres de soins.
La promotion de la femme.
La promotion de la femme. Voilà. Donc c'est toujours dans la ligne. Éducation.
Et ici, aujourd'hui, donc ici,
centre d'accueil. On accueille des groupes pour des séminaires, de formation, de retraite, de plusieurs jours, d'un week-end ou comme ça.
Et puis il y a l'EHPAD aussi.
Non, l'EHPAD, c'est en ville.
Oui, c'est au centre-ville, c'est toujours les sœurs de l'Ange Gardien.
Mais c'est pareil, à présent, c'est géré par une association, mais on a une communauté aussi en ville. Mais ici aussi, le centre, c'est géré par une association.
Oui.
Mais nous, les sœurs, nous aussi sommes présentes.
Donc, il y a deux communautés qui vivent ailleurs.
Elles vivent ailleurs,
Elles vivent ailleurs aussi.
En plein centre-ville.
En plein centre-ville, vraiment, une petite communauté. Tu as oublié quelque chose ?
Dis-moi.
Les centres d'accueil s'appellent désormais...
Ah oui. Parce qu'effectivement, on avait quelques soucis. On avait mis centre d'accueil parce que c'est ouvert, que ça ne fonctionne que depuis 2000. Et quand on voit centre d'accueil ou par Internet ou ailleurs, on pense que c'est social. Malheureusement, non, c'est pas social. Malheureusement, je dis, parce qu'on n'a pas de subventions, on n'a rien. Et on a beaucoup, c'était presque tout le temps des appels, je n'ai pas où dormir ce soir. On a accueilli des personnes, mais on ne pouvait pas accueillir indéfiniment, parce que il faut vivre. Malheureusement, nous, on vit de notre travail.
Il faut pouvoir les faire vivre aussi. Les accueillez, vous êtes responsable également.
Tout à fait. On en a accueilli parce que, bon, quand on vient vous dire cette personne dort dans la rue, on avait une salle où il y avait tous les sanitaires et tout. On lui disait, bon, voilà, en attendant que vous refassiez, que vous fassiez quelque chose, voilà, vous pouvez dormir là. Mais on ne peut pas faire ça indéfiniment parce qu'en plus de porter une responsabilité, parce qu'on n'est pas habilité à faire ce type d'accueil. Donc, du coup, on a changé. On a demandé l'autorisation, la préfecture a changé.
statue et tout. Et depuis, on l'appelle, depuis, ça fait quoi? Et moi, on l'appelle, c'est le centre Louis Ormière.
Et alors là, c'était la cour de l'école.
Il y a beaucoup. Voilà, il y a cette.
Ici,
ça,
c'était le.
Il y avait une mare où il y avait des canards.
Voilà. Là, c'était.
Il y avait des vaches, des chevaux, des cochons. Là-bas, il y avait des poules
et de la pelle.
Et ici, vous voyez, là, c'est des caves. Mais là-dessous, il y a des caves que elles ont été fermées parce que c'est la salle à manger là. Mm-hmm. Et c'est par là qu'on faisait rentrer les Juifs qu'on cachait pendant la rafle allemande après la plaque est là. Là, c'est des caves qui restent. Mais ici,
on va les voir, oui.
Comme on avait des animaux, toute la partie là-bas, c'était les écuries. Il y avait les vaches, après il y avait les chevaux et après il y avait les cochons. Et ici, c'était comme un hangar où on mettait les bottes de paille pour l'hiver, pour les animaux. Et les sœurs nous le racontent, parce que quand on accueillait ça, il y avait beaucoup de sœurs à la communauté, il y avait plus de 50 sœurs. Mais il n'y avait que la supérieure et la sœur de la cuisine et la sœur économe qui savaient qu'il y avait des juifs cachés. Les supérieurs avaient pensé.
Il y avait souvent les Allemands qui venaient
par. Voilà. Elle disait, comme on a des jeunes sœurs, si jamais un jour on vient les interroger, elles ne vont pas être capables de mentir. Et elles vont dire, donc le mieux c'est qu'elles ignorent tout. Donc, tout
et un jour, les Allemands se sont couchés sur les bottes de paille ici.
Il pleuvait, ça c'était ouvert, et il y avait les bottes de paille ici qui étaient camouflées, la porte d'entrée. Il y avait toujours des guetteurs. Quand on disait ils arrivent, caché.
Il y avait deux docteurs de Montauban,
le docteur Denis.
Et notre docteur qui collaborait, et par exemple le docteur Denis caché dans sa clinique, dans le lit de sa clinique, des gens qui étaient recherchés, c'était comme des malades. Et quand tout s'est calmé, à ce moment-là, on faisait le passage vers la Molle.
Et après, c'était possible, de la Molle pour les envoyer après, via l'Espagne.
Vers l'Espagne,
Il y a une dizaine d'années qu'un professeur d'une école, professeur d'histoire, avec ses élèves, a fait faire une reconnaissance de tout ça, du passé. Et ils sont venus faire ici une grande fête. C'est là où on a mis la plaque. Et puis, même en ville, il y a eu des manifestations. Parce que nous avions également un aumônier qui est mort il y a deux ans, de son affaire, la veille de Saint-Julien, 103 ans. Et c'était un homme, je dirais, une bibliothèque de ces temps-là. Mais c'est en passé, il avait toute l'information, il connaissait tout.
Des jeunes,
de la joie qui a été tué. Il connaissait tout. Et là-bas, bon là c'est dans le maintenant il y a des garages, mais là-bas, moi j'aimerais en faire un sanctuaire, madame.
Ici, là, dans son hangar là-bas.
Oui, des saintes sœurs qui ont travaillé là,
C'était le lavoir, pas des machines, c'était les mains. Et tant de monde ici, des sœurs malades et tout ça, tout passé par leurs mains, en hiver comme en été, l'eau froide.
Donc avec des gerçures.
Elle les chauffait un petit peu parce que c'était insupportable.
Et puis nous, les novices, on allait chercher, avec une brouette, on allait chercher le linge lavé et on les portait de l'autre côté de la maison là-bas, du château, pour l'étendre, tous ces chemins.
On les portait à l'étendre aussi au grenier, parce qu'en hiver, il fallait...
Donc là, on va s'approcher de la plaque. Vous pouvez le lire, ce qu'il y a écrit sur la plaque.
Voilà, c'est le couvent, parce que souvent encore, quand on parle d'ici, c'est le couvent de la Molle. Pendant longtemps, on faisait la différence entre nous ici, sœurs de l'ange gardien du couvent de la Molle et sœurs de l'ange gardien de la maison de retraite. Les sœurs de la Molle n'étaient pas les mêmes. Là, voilà. Le couvent de la Molle, maison mère de la congrégation des sœurs de l'ange gardien, fut, durant les années sombres de l'occupation, un lieu où, avec l'aide de médecins montalbanais, les docteurs Roger Denis et Pierre Manavial, des juifs et des résistants recherchés par la Gestapo ou la milice purent trouver un refuge et des filières d'évasion pour rejoindre l'Angleterre ou l'Afrique du Nord. L'abbé Jean Desgranges, député du Morbihan, également recherché, demeura dans cette maison d'octobre 1943 à la libération de Montauban.
Alors voilà, là nous sommes dans la chapelle.
C'est la chapelle, voilà, c'est Alors, la tombe de nos fondateurs.
Donc, il repose ici.
Il repose ici.
Le père Louis Ormière et voilà. Mère Saint-Pascal.
Voilà. Il a fait pas mal de miracles. Malheureusement, quelquefois, on n'a pas su y faire, parce que celui de la sœur qui avait des hémorragies, qui a été guéri.
Il y a eu plusieurs choses. Il y a eu qu'à un moment donné, on est arrivé à un moment donné où il y a eu une opposition même d'une certaine partie de la congrégation qui disait « c'est pas la peine de mettre l'argent, pour nous c'est toujours un saint, on n'a pas besoin que l'Église le reconnaisse, pour nous c'est un saint, et cet argent qu'on va dépenser pour ça, il y a beaucoup de besoins pour le mettre ailleurs, et bon, et ça s'est stoppé. » Et puis après, il y a eu d'autres que quand on a présenté les miracles, c'est ce qui a été découvert, qu'ils demandaient des renseignements à des des docteurs qu'ils avaient fait. Et puis ce docteur était décédé, les personnes étaient, on ne pouvait pas donner des réponses. Il y a eu le feu qui a brûlé quand même pas mal d'archives.
Donc là où il est décédé, on a perdu des éléments.
Donc ce qui fait que ces miracles là Rome n'a pas pu le reconnaître. Et puis bon, c'était mais pas c'est... trop préoccupé quoi.
Mais en tout cas, un miracle, ça vaut la peine de le dire, parce que c'était une de nos sœurs qui s'est mourée, elle avait des hémorragies suivies, même elle avait un neveu docteur qui la suivait de près, mais bon. Et à tour de rôle, nos sœurs couchaient dans sa chambre tous les soirs
pour la veiller,
etc. Là, on l'accompagnait. Puis un jour, il y a une sœur qui est restée pour la veiller, et dans sa chambre, cette sœur avait un tableau en face de son lit du père Ormière. Et la sœur qui l'a veillée a vu comme si le père Ormière se détachait du tableau et qui protégeait la sœur, qui se penchait vers la sœur. Et là, elle a dit, la sœur est guérie, je peux dormir tranquille.
C'était à quelle période ?
Ça remonte
au début du siècle.
Ou peut-être en 1940, par là, dans ces eaux-là. Et alors, cette sœur a duré de longues années, mais à la fin, elle avait perdu un peu sa tête, sa mémoire et tout ça. Mais elle répétait toujours, « Oh, le père Ormière n'a regardé qu'à la sœur. À moi, elle n'a pas voulu me regarder. » Mais le miracle, raconte le miracle qui vaut la béatification maintenant. Raconte-toi.
Tu peux le raconter, toi aussi.
Mais toi aussi, allez.
Bon, mais c'est une sœur qui vit encore. Et c'est là où il y a le chic, parce que comme elle dit elle-même, elle dit, d'autres fois, on dit les miracles, mais les personnes ne sont plus là. Et là, je suis là pour attester, quoi. Et c'était deux sœurs de la congrégation. Et une est morte très jeune du cancer.
En Colombie. Espagnole, mais elle était en Colombie.
Et sa sœur, là, dernièrement, bon, mais un problème à la bouche, on regarde et tout, cancer. Un cancer qui était en train de lui ronger le...
Tout le palais.
Tout le palais. Il y avait un trou, bon. La science...
Ne pouvait plus rien faire.
On lui a fait à deux reprises deux greffes. Et ça ne réussissait pas. Puis à la fin, ils se sont consultés. Bon, la congrégation, la communauté surtout, était très attentive. Bon, parce qu'ils ont perdu sa sœur, qui est aussi. Bon,
et mais puis... on ne cessait pas de prier le père Ormière.
Voilà. Et puis finalement, à la troisième greffe, les docteurs ont dit, bon, on va essayer une troisième. Si ça marche, ça marche. Et puis sinon, nous, on dira, notre science s'arrête là. On ne pourra plus rien faire. Donc, voilà, nos limites arrivent jusque-là. Et puis un soir, ou à un moment donné, elle trouve quelque chose à la bouche, à nouveau, la greffe qui était tombée. Mais, miracle, il n'y avait plus de trou. Il n'y avait plus rien. Alors, la doctoresse qui vit encore, je pense qu'elle vit encore.
Il y a un des docteurs qui était à la
médication. C'est au début du siècle,
là. Il y a du 20 ans, du 27 ans, peut-être
moins. Au début des années 2000, quoi.
Voilà, c'est.
Et donc, finalement, les docteurs ne pouvaient, puisqu'ils avaient dit c'est fini, on s'arrêtait là.
Ils ont dit ça nous dépasse.
Quand ils ont vu ça, c'est sûr. Ça ne dépend pas de nous. Ça ne vient pas de nous, puisque avant, ils avaient dit c'est fini, nous, on a terminé, il n'y a plus rien à faire. Et là, tout était fait, et ce n'est pas eux qui l'avaient fait.
C'est notre père.
Mais oui, puis c'est, pour le monde, ce sont des signes.
C'est vraiment des signes pour le monde.
Tout à fait. Oui. Et c'est là qu'on est quand même revenu, parce qu'il y avait cette vague de sœurs, surtout en Amérique, qu'elle disait, avec la pauvreté qu'il y a là-bas, on a besoin d'argent, bon, mais ce n'est pas la peine de les mettre. Et puis là, on est quand même revenu. Reconnu par l'Église comme saint, nous, pour nous, il n'y avait pas de doute.
Oui. Il ne nous appartient pas, il appartient à l'Église, il appartient au monde, il appartient à Dieu. Et donc, il faut savoir aussi, je dirais, le présenter, l'offrir, enfin, dans ce sens-là.
À la suite de la béatification du père Ormiard à Oviedo, les sœurs, qui dans son sillage mènent une vie simple pétrie de l'Évangile, ont rendu grâce au cours d'une journée festive, ce samedi 20 mai, à La Molle, à Montauban, lieu de la maison mère où repose son corps.